Le football n'est tout simplement pas adapté à la nature féminine. Il est même dommageable pour l'appareil reproducteur. Par ailleurs, au moment du cycle, il est évident que les ligaments sont plus fragiles. Alors entendons-nous bien, les femmes ont le droit de faire du sport collectif. Mais je leur recommande vivement la natation synchronisée.
Il est évident qu'une famille bien éduquée n'enverra pas sa fille s'exhiber en petite tenue devant des hommes en rut. J'imagine que certaines de ces demoiselles doivent trouver ça fort excitant, et bien moi je le réprouve. Et si des hommes veulent voir des filles nues, ils n'ont qu'à aller voir des effeuilleuses.
Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balanceman, cadenceman, trace la classe. C'est le top man.
Et allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
Ouh. Oh là. Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mais à rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau match de Gaulle Volant, votre podcast de sport préféré, puisqu'il ne parle pas seulement de sport, mais bien de la société à travers le sport. Et le match d'aujourd'hui est un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et cette journée représente pour nous, chroniqueurs, chroniqueuses, techniciens et techniciennes de Gaulle Volant, l'occasion de dresser un bilan. Où en est Gaulle Volant concernant l'égalité femmes-hommes ? Eh bien, comment dire ? Eh bien, c'est pas joli joli. 90% des chroniques sont bafouillées par des hommes, 90% des sportifs évoqués sont des hommes, 90% des références sonores de nos génériques et jingles sont des paroles d'hommes, mais aussi 90% de nos émissions sont présentées par des hommes, et dans 90% des cas, ce sont des techniciens qui sont en régie et non des techniciennes. Bon, j'avoue, dans tous ces 90%, on frôle même souvent les 100%.
Il y a que des mâles ici. S'il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est bien ça.
Alors pour tout ça, nous vous présentons nos excuses, et croyez bien que nous en sommes les premiers attristés. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On éteint son transistor, en se disant qu'on va encore avoir affaire à une belle bande de machos, qui ne parlent que de sportifs mettant en concurrence leur virilité testostéronée, dans des sports dans lesquels les femmes sont peu, voire pas du tout considérées. Ou alors on se dit que cette émission n'est malheureusement que le révélateur d'un sombre constat. Que les sportifs sont outrageusement plus médiatisés que les sportives, et que le ou la fan de sport devra lutter pour consacrer autant d'attention aux unes qu'aux autres. Que le domaine du sport à l'école, dans la rue, dans les stades, les gymnases, les piscines, les dojos et les circuits, est encore aujourd'hui pensé pour les hommes. On peut se douter que les péroreurs de sport que nous sommes sont beaucoup plus préparés, encouragés, entraînés à parler de sport que nos collègues amis, sœurs de sexe féminin, et que par conséquent, notre recrutement ne nous permet pas, pour l'instant, de nous rapprocher de la parité.
N'importe quoi, mais c'est vraiment un discours de macho, ça t'es con !
Et pour toutes ces raisons, ce n'est encore une fois pas une femme la coach de l'émission aujourd'hui. Et pour être tout à fait franc, je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui suis à cette place. Ben ouais, j'imagine que vous êtes sûrement étonnés, chers auditeurices, de ne pas retrouver la voix désormais internationalement adulée de notre coach historique, j'ai bien dit historique, hein, pas préféré, Jérôme. Eh bien sachez que je le suis tout autant que vous. Pour ne rien vous cacher, toute l'équipe s'est retrouvée comme prévu à l'ordi au studio pour l'enregistrement, et ça fait maintenant une bonne heure qu'on attend notre Jérôme, qui ne répond même pas au coup de fil. Bon, ça c'est sa spécialité, on lui en veut même plus. Alors après concertation avec les amis présents, on s'est décidé à démarrer l'émission malgré tout. Mais j'ai quand même bien envie de tenter un dernier coup de fil à Jérôme. Benjamin, à la technique, tu crois que c'est faisable ça ?
Bah oui, écoute, tu me laisses deux secondes, je vais l'appeler.
S'il te plaît.
Ouais.
Mais Jérôme, qu'est-ce que tu fous ? On t'attend.
Mais non, mais c'est un peu compliqué là, je suis avec la petite, elle est partie à la piscine là.
La petite est partie à la piscine.
Mais non, Julia, attends, lâche ça, Anita, s'il te plaît. Non, Julia, elle est partie à la piscine encore là.
Bah ouais, mais enfin Jérôme, ça fait, on avait prévu ça il y a des semaines, t'aurais pu caler la date quand même.
Bah ouais, mais en ce moment, elle est tout le temps, voilà, elle va tout le temps à la piscine. Je peux même plus aller au tennis le samedi, j'y vais plus que le dimanche.
Ouais, bah on va se démerder sans toi.
Ouais, mais je je suis désolé, je vous laisse un peu dans la mouise, mais là je peux vraiment pas, il faut que je reste avec la petite. Moi je vous ai envoyé quand même une petite chronique, là, un petit conseil d'une BD. Là. Bon bah ouais, je suis désolé, mais bon, bonne émission quoi. Y a qui là avec toi?
Qui c'est qui est là?
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi?
Jolie brochette.
Autour de moi aujourd'hui, celles et ceux qui ont osé l'aventure de cette émission spéciale 8 mars. Car pour être honnête, certains parmi la grande équipe de chroniqueurs de Gaulle Volant, qui se disent tous de gauche et féministes jusqu'au bout des ongles, certains dont je ne citerai pas le nom, qui commence par Co et finit par Co, certains donc ont pris peur face à l'ampleur de la tâche. Mais heureusement, tout le monde ne m'a pas abandonné, et on retrouve aujourd'hui avec plaisir Charlotte, que j'ai toujours plaisir à retrouver à mes côtés puisqu'elle s'y connaît autant en sport que moi. Salut à toi.
Eh oui, je suis une vraie experte.
De quoi tu vas nous parler, Charlotte?
Eh ben moi, j'ai préparé un petit quiz pour qu'on puisse revoir un peu quelques petites choses sur les femmes et le sport.
D'accord, très bien. Avec nous également aujourd'hui, notre Julien. Salut.
Salut tout le monde.
Et toi, de quoi tu vas nous parler?
Eh ben moi, je vais vous dresser un portrait d'une camarade, d'une sportive.
Ok. À la technique, mais pas que, parce que lui aussi sait faire deux choses en même temps, c'est Benjamin.
Salut.
Et toi alors?
Moi, je vais vous parler d'un événement qui arrive cet été et qui annonce une parité incroyable entre les athlètes hommes et femmes.
Je crois que je vois de quoi tu vas parler. Pardon. Et enfin, tu verras.
La plage.
Et enfin avec nous, notre consoeur du podcast 100% Foot National et correspondante sport du Télégramme, c'est Mélanie. Salut Mélanie, de quoi tu vas nous parler?
Salut tout le monde, merci de m'avoir invitée. Moi je vais vous parler de la place des femmes journalistes de sport et particulièrement de la non-place des femmes journalistes de sport dans les commentaires de matchs.
D'accord, on a hâte d'entendre ça. Et aujourd'hui, pour nous accompagner tout au long de l'émission, nous recevons au téléphone Claire Ponté, qui est agrégée en EPS et ancienne formatrice à l'INSPE de Caen. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors Claire, tu es aussi responsable de l'éducation physique et sportive à l'école primaire au SNEP-FSU, le syndicat national de l'éducation physique, et au centre EPS et société qui se donne l'objectif de penser les questions de l'EPS dans ses rapports à l'école, aux questions sociales et sportives, et plus largement aux débats idéologiques contemporains. Tu t'intéresses notamment à l'égalité femmes-hommes en EPS et dans le sport. Est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, très bien.
Alors en 2023, l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, a publié une grande enquête statistique sur les activités physiques et sportives en France. On y apprend ainsi que 60% des femmes déclarent avoir une pratique physique régulière contre 60% des hommes. Alors qu'en 83, elles étaient 32% des femmes et 74% des hommes. Alors je vais me faire l'avocat du diable, on y est presque arrivé, non, à cette fameuse égalité femmes-hommes?
disons qu'on avance, comme dans tous les aspects de la société, on avance au moins sur la prise de conscience des inégalités de genre en général, et on avance sur les questions du sport. Par exemple, mes petites filles, ma fille, mes petites filles sont bien plus sportives que ne l'étaient ma mère et ma grand-mère, donc effectivement, on avance. Mais... beaucoup de personnes diront qu'on n'avance pas assez vite, mais c'est surtout ce qui est intéressant à savoir, c'est que les femmes se sont beaucoup battues pour pratiquer le sport. Pratiquer. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été évident d'emblée. Les premiers adversaires ont été les médecins qui ont déconseillé toute pratique sportive parce que ça allait altérer le corps des femmes pour la maternité.
Ah oui.
Par exemple, elles ont été interdites de faire du vélo. Ont été interdites de faire du football. Mais il n'y avait pas que les médecins, il y avait aussi toute la gente féminine qui trouvait que le sport pour les femmes, c'était inconvenant, inesthétique, et qu'il était hors de question qu'elles en fassent, comme le célèbre Pierre de Coubertin, qui était quand même un fameux misogyne, quoi.
Oui, justement, si tu me permets, Claire, je vous propose cette citation de Pierre de Coubertin lors des JO de 1912. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs.
Bah t'as vu comment c'est sexiste? T'as vu la vision pourrie de la femme?
Non, pourquoi?
Même citation. Heureusement que tous les hommes n'ont pas été comme lui et qu'il y a eu des hommes, y compris à son époque, qui étaient des fervents défenseurs de l'activité physique pour les femmes, et notamment un militaire bien connu des profs de PS parce qu'il avait édité une méthode d'éducation physique et qui lui disait que la jeune fille qui serait développée et entraînée d'une façon aussi complète que le jeune homme pourrait se mesurer à peu près à égalité avec lui sur l'ensemble des épreuves. Donc c'est assez intéressant de voir que de tout temps, il y a eu des hommes qui ont cherché l'égalité avec les femmes et de tout temps, des hommes qui ont combattu l'égalité.
Bon, alors Claire, on évoquait tout à l'heure les Jeux Olympiques avec ce grand misogyne qui était Pierre de Coubertin. Mais ce sont aussi les JO qui ont permis de reconnaître comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport entre guillemets féminin au niveau international, à savoir la Bretonne Alice Milia. Et c'est Julien qui va nous en parler tout de suite.
Chronique sérieuse, alors moi qui suis habitué à faire d'habitude des conneries, il faut que je prenne ma voix sérieuse. Bonjour, je vais effectivement vous parler d'Alice Milia.
C'est ça ta voix sérieuse ?
Née en 1884 à Nantes, Alice Milia se battra toute sa vie pour la reconnaissance du sport féminin. Elle mourra en 1957 à Paris. Aujourd'hui, des salles de sport portent son nom, des piscines, une fondation et même une esplanade. Voilà, et c'est pas trop dur en fait les chroniques sérieuses. Et hey, trop bien. Alors là, on a 22 secondes. Ah, il va falloir broder un peu pour... tenir, oh punaise, 5 minutes. Ah ouais. Bon, allons. Poum, 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 top, 10 secondes de gagner. Voyons. Donc nous sommes avec Alice Milia, fin 19e, début 20e. Une page de l'histoire de la lutte pour les droits sociaux, pour les droits des femmes est en train de s'écrire. La commune de Paris a commencé à poser des jalons pour le féminisme. Louise Michel, bien sûr, les pétroleuses, les clubs de femmes. La parole se libère. Les femmes s'organisent de plus en plus. Début 20e, c'est aussi Clara Zetkin, l'internationale socialiste des femmes en 1910, qui lance l'idée qu'on reprend aujourd'hui du 8 mars. Merci. Et le mouvement des garçons, le livre La garçonne de Victor Marguerite, où les questions d'homosexualité, de fluidité des genres, de sexualité, qui nous semblent des questions bien contemporaines aujourd'hui, avaient en fait déjà fait parler d'elle. À cette époque d'ailleurs, le président de la Ligue des Pères de Familles Nombreuses menaçait de faire saisir ce livre en justice, la garçonne. Ouais, si, la Ligue des Pères de Familles. Il existait une Ligue des Pères de Familles Nombreuses. Donc faut arrêter de stigmatiser les pères qui ne s'impliqueraient pas dans la parentalité. Une Ligue des Pères de Familles Nombreuses, moi ça donne envie, non ? Bref, dans ce contexte donc, les femmes s'organisent, s'affranchissent de certaines règles dans la société et donc dans le sport aussi inévitablement. Et quand même bien trouvé notre nom de podcast, non ? Sport et société, bah ouais, autopromo. Alice Milia, elle est dans ce mouvement-là. Elle devient présidente du Femina Sport dans le 14e arrondissement, Club Omnisport. En 1917, elle crée la Fédération des Sociétés Féminines Sportives. Se crée la Fédération des Sociétés et elle sera trésorière, puis aussi présidente, secrétaire générale, puis présidente. Sûrement inspirée de la bonne tenue des JO de 1900, donc 997 athlètes dont 22 femmes, Alice Milia décide de proposer en 1919 des épreuves féminines au CIO pour les JO de 1920. Bah devinez quoi, le CIO a refusé. Bon, et on retrouve qui face à cette demande ? Notre ami dont nous avons déjà parlé un petit peu précédemment, notre cher Coubertin, oui. Mais Alice Milia ne baissera pas les bras. En 1921, elle organisera à Monte-Carlo les premiers Jeux mondiaux féminins d'athlétisme. Créera cette année-là aussi la Fédération sportive féminine internationale, la FSFI. Elle sera aussi de la partie pour organiser encore en 1921 les championnats olympiques féminins à Paris. Ce fut un succès. Mais elle doit abandonner le qualificatif olympique. L'olympisme, c'est pour les hommes. Hein, monsieur le baron de Coubertin, les hommes, les vrais, pas pour les femmes.
Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille. Elle doit être élevée en vue de cet avenir immuable.
Écrit le baron en 1901.
L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle, avec l'applaudissement féminin pour récompense.
T'as vu Mathieu ? Ça c'est de l'imitation qu'on fait quand même.
Tu fais vachement mieux que moi.
Je me suis entraîné. Donc 1926, les Jeux mondiaux féminins, encore un grand succès. Et là, le CIO ne peut plus trop rester sur ses positions. Donc 1928 verra les premières épreuves féminines aux Jeux Olympiques. Puis les éditions suivantes confirmeront cette victoire pour le sport féminin. Alice Milia, on pourrait dire, a gagné. Elle décide donc la dissolution de la FSFI, Fédération sportive du sport internationale. Oh, j'arrive pas à cet acronyme. Nageuse, hockeyeuse, rameuse, Alice Mia se sera investie pour la création et la promotion du sport féminin à une époque difficile. Elle mérite bien qu'une esplanade soit à son nom maintenant pour les JO de 2024 à Paris. Esplanade Alice Mia, devant l'aréna de la Porte de la Chapelle. C'est la classe quand même, quoi. On est bien. En fait, non, on n'est pas bien. Petite histoire triste pour conclure ma chronique. En 2020, le Conseil de Paris vote pour que la future aréna porte son nom à Alice Mia. 2022, revirement. L'aréna s'appellera l'Adidas Arena. Petit naming qui fera rentrer pas mal de sous-sous dans les poches de la ville de Paris. Maintenant, dans les infos, on entend parler des épreuves de badminton qui auront lieu à l'Adidas Arena de la Chapelle. La gymnastique rythmique, c'est dans la belle salle de l'Adidas Arena. Et l'esplanade Alice Mia, ben, on n'en parle pas. Certes, elle a une belle plaque sur l'esplanade, mais dans les médias, ben, zéro visibilité. Voilà, c'est ça aussi les valeurs de l'olympisme en 2024. Waouh, chronique sérieuse. Hein. J'aurais pas cru pouvoir tenir si longtemps, alors juste que cette émission, je garde pour moi normalement un pouvoir cathartique. Je dois devoir quand même vous faire goûter un petit peu ce qui me traversait l'esprit quand je devais bosser sérieusement. J'avais notamment un petit rythme dans la tête qui faisait... Je te proposais un voyage dans le temps via Planète Simone Veil, c'est Alice Mia et DJ Vinou Coubertin. Alice le Mia, hey, Alice Mia. Ouais, pardon. Fallait que ça sorte. Trop sérieux pour moi cette émission. C'est la fief.
Quoi?
Quoi?
Quoi, Coubertin?
Merci Julien pour ce bel hommage à cette grande militante, quand même, qui était Alice Mia. Je vous propose un autre hommage à présent, celui du regretté Alain Bachung, pour celle qu'on surnomme la Gazelle, la seule athlète française à avoir été 3 fois championne olympique, Marie-Josée Pérec.
Elle voulait gagner le paradis. Elle avait le miracle facile. Dans la foulée, elle a expédié ses affaires courantes. Crudité sur ordonnance, cruauté dans la tourmente, dans la foulée. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée inhalée des parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. De la douche au bûcher, la route est longue, mais la crampole la laisse de l'arbre. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée inhaler les vapeurs d'essence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. Elle avait le miracle facile, la victoire au bout du cil. Dans la foulée, elle a balayé la houle et les huées dans la foulée. Dans la tourmente, dans la foulée, dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée inhaler les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante. Thank you.
aura qu'une bouchée de l'impossible. Pépites cendrées jusqu'à la corde et les ronces de piquet, ce coin d'azur, cible choisie. Marie-Jo sort des allées, inhalées, les parfums de l'un de leurs ronces. Elle reviendra si ça lui chante.
Vous êtes toujours à l'écoute de Gaule Volant, le podcast Sport et Société, pour cette émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On vient d'écouter Dans la foulée d'Alain Bachung, qui dénonce le lynchage médiatique subi par Marie-Josée Pérec suite à sa fuite des JO de Sydney en 2000. Avant cela, Julien nous a parlé d'Alice Milia, et d'ailleurs je voulais vous conseiller une belle BD documentaire sur elle. Ça s'appelle Alice Milia, pionnière olympique, je n'ai plus l'autrice en tête, mais c'est aux éditions Petit à Petit. C'est maintenant le moment du conseil Q, et c'est Jérôme. Et connaissant le bonhomme, il va sûrement encore nous parler de BD, donc. Et j'espère quand même qu'il ne va pas nous parler pour la énième fois de Saison des Roses de Chloé Vary, qui pourtant serait fort approprié au thème d'aujourd'hui.
Le conseil culturel de Gaule Volant.
Le conseil Q culturel.
Le conseil Q.
Bien, alors en tant que sportif, moi je connais en ce moment le problème du vieillissement. En effet, j'ai 37 ans et je sens bien que mon projet de devenir sportif de haut niveau peut devenir compliqué. De nombreux sportifs sont partis à la retraite à 37 ans ou même avant. Marie-Josée Pérec, 36 ans. Laurent Jalabert, 34 ans. Zinedine Zidane, 34 ans. Roxana l'ancienne ministre, quoi, 29 ans. Donc maintenant, ça y est, j'ai compris, m'entraîner ne suffit pas, je pense qu'il faut que je lis. Il faut que je lis, hein, pour savoir comment devenir plus fort. Et donc je suis allé à le truc à côté de la boulangerie, là, avec la vitrine, là, où il y a plein de livres, voilà, la librairie. Et j'ai trouvé un bon livre, Le secret de la force surhumaine. Trop bien, j'achète. Alors, il s'agit d'un livre de l'excellente Alison Bechdel. Alison Bechdel, c'est l'autrice de Fun Home et C'est toi ma maman, deux romans autobiographiques dans lesquels elle évoque ses deux parents et dépeint ses relations avec eux. Elle est aussi connue pour son test, le test de Bechdel, qui permet de mettre en évidence la sous-représentation des personnages féminins dans les films. Le test comporte trois items. Donc, 1, il doit y avoir au moins deux femmes nommées, nom, prénom, dans l'œuvre. 2, il faut qu'elles parlent ensemble. Et 3, il faut qu'elle parle de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Alors faites passer le test à vos films préférés, vous verrez que c'est vraiment pas évident. Alors dans son livre, Le secret de la force surhumaine, on redécouvre l'érudition, l'humour et l'intelligence d'Alison Bechdel. En effet, au travers d'un récit, une nouvelle fois autobiographique, Alison Bechdel raconte son histoire, celle de personnages historiques importants, qu'elle met en parallèle. elle nous parle de ses amours, de ses lectures, de ses parents, de ses regrets. Mais ici, elle nous fait montre d'une incroyable sportivité. En effet, Alison Bechdel nous relate, décennie par décennie, son rapport au corps, à l'effort physique, aux disciplines sportives. Elle commence même par le récit qui lui a été fait de sa propre naissance et ses premiers souvenirs télévisuels ou parentaux. Elle semble ne plus bien faire le distinguo. Pendant les quelques 233 pages de son roman graphique, elle évoque les différentes activités sportives et physiques qu'elle pratique en les mettant en lien avec les éléments importants de sa vie. Ainsi, son activité physique est toujours liée à son travail. Alison Bechdel explique comment le sport représente un échappatoire à diverses situations problèmes de son existence. Comme de nombreuses personnes sportives, peut-être. Sauf que chez Alison Bechdel, l'activité physique représente bien plus qu'un simple défouloir. En effet, elle montre comment, quand des forces extérieures s'exercent sur elle, la pression du travail, du couple, de la famille, elle s'en va vérifier dans l'activité sportive quelles forces elle est capable de déployer pour y faire face. Toute son activité sportive est mise en lien avec sa vie, ses lectures, son œuvre. Ça donne en tout cas l'envie de se défendre comme elle. Sportivement, je n'ai aucun point commun avec Bechdel. Elle pratique des sports de nature. Parfois, elle ne fait plus rien, puis s'y remet avec une assiduité, voire même une férocité incroyable, à certains moments, dont j'aurais bien besoin personnellement pour préparer l'Urban Trail de Rennes auquel je participe dans quelques semaines, et pour lequel j'aurais mieux fait de m'entraîner. Je vous incite grandement à lire « Le secret de la force surhumaine » d'Alison Bechdel, édité chez De Noël Graphique. Vous n'y trouverez pas de conseils coaching, mais bien mieux, la compréhension de vos propres attitudes face à l'effort, si vous êtes déjà sportif. Et si vous ne foutez rien, méfiez-vous, ça pourrait vous donner envie de vous y mettre.
Ouais, alors ça, moi j'y crois moyen. En tout cas, personnellement, c'est pas un bouquin aussi formidable qu'il soit qui va me donner envie de m'y mettre. Bien, merci Jérôme pour ce conseil BD, dont je rappelle les références. Le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel aux éditions De Noël Graphique. Du coup, Jérôme, coincé entre tes couches et tes biberons, je ne sais pas où tu vas trouver le temps de t'entraîner pour l'Urban Trail de Rennes, mais on te souhaite bien du courage.
Allez, tu vas pas t'arrêter comme ça tous les 500 mètres, feignasse, hein. Alors, on vient à peine de commencer.
Voilà, alors on retourne au téléphone avec notre invitée Claire Pontet qui s'intéresse entre autres dans ses travaux à l'égalité femmes-hommes dans le sport et en EPS. Tout à l'heure, Claire, tu nous as fait un rappel historique de la pratique sportive des femmes et des obstacles à celle-ci. Bon, ma question était un peu provocatrice puisque je te disais que des études montraient que la pratique sportive des femmes tend justement à se rapprocher de celle des hommes. Mais pourtant, tu semblais dire que de nombreuses inégalités subsistent aujourd'hui entre femmes et hommes dans le sport. Lesquelles ?
Les premières inégalités, elles sont dans la quantité de pratique. C'est-à-dire que les femmes continuent de pratiquer moins que les hommes. Alors c'est vrai que ça se rattrape, on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi des différences énormes de formes de pratique. C'est-à-dire que dans la même idée qu'on interdisait aux femmes de faire des sports parce que ça allait pas bon, ça n'allait pas être bon pour leur maternité, eh bien aujourd'hui les femmes pratiquent plus des activités esthétiques, des activités de santé, des activités d'entretien de soi pour avoir la belle silhouette, etc. Pendant que les hommes vont aller faire des sports collectifs, des sports où ils vont se confronter aux autres, faire des exploits, prendre des risques, avoir des émotions fortes. Mmh. Donc il y a encore des inégalités dans les formes de pratique. Et puis il y a aussi des inégalités, on vient de le voir, des sports différents, hein. Je précise par exemple que 30% des parents seraient chagrinés que leur fille fasse du foot.
Ah oui.
Et inversement, on n'a pas les statistiques exactes, mais j'imagine qu'on serait plutôt de l'ordre de 80% de parents qui n'aimeraient pas que leur garçon fasse de la danse, de peur qu'il se transforme en fille peut-être. Voilà. Donc voilà, ça n'avance pas vite. Et à pointer aussi, c'est que les inégalités sont culturelles, bien sûr, mais aussi sociales. C'est-à-dire que, par exemple, 3/4 des femmes qui ne pratiquent aucune activité sont employées ou ouvrières.
Oui.
Donc, on pourrait dire que c'est la double peine pour les femmes de milieu populaire.
Oui, puis je pense que l'inégale répartition des tâches à la maison, ça doit jouer aussi, non ?
Ah ben oui, bien sûr, si on fait le calcul, l'écart de temps libre entre un homme et une femme par semaine, c'est 6h30.
Oui.
Il y a largement de quoi faire du sport. On voit bien comment on pourrait rééquilibrer les choses. Hein. Alors, il y a quelques minuscules progrès du côté des tâches domestiques de la part des hommes, mais ils restent minuscules. Mmh. Et donc, l'écart est encore très grand. Et évidemment, c'est le temps libre des femmes qui est contraint.
Mais alors, ces inégalités persistantes, elles ont quelles conséquences concrètement aujourd'hui ?
Il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, le fait que les femmes ne soient pas médiatisées fait que beaucoup de gens pensent que, des enfants notamment, ils pensent que, par exemple, le rugby, ce n'est pas pour les filles. Oui. Et donc, persiste cette idée qu'il y a des sports pour les filles et des sports pour les garçons. Le fait que les journalistes parlent toujours du sport féminin. Comme si
pas,
le sport de référence c'était le sport masculin. Ouais, ouais. Et alors que c'est pas plus difficile pour un journaliste de dire bah, cet après-midi il y a un match de rugby masculin ou cet après-midi il y a un match de rugby féminin. Non, on sait que s'ils disent rugby c'est que pour les hommes et rugby féminin évidemment ce sera pour les femmes, comme si c'était un sous-sport. Et donc les conséquences c'est que y en a plusieurs ordres. Les femmes se dévalorisent en sport. Mais on a le même phénomène avec les maths, hein, où les femmes se disent pas bonnes en maths, alors qu'elles pourraient être de grandes scientifiques. Eh bien là, elles se dévalorisent en sport à quantité de pratiques égales. Elles se considèrent moins sportives que les garçons, parce qu'elles ne font pas les mêmes sports. Le pendant de ça, c'est que certains garçons se survalorisent et entretiennent une masculinité dominante, voire hégémonique, et qui n'est pas... propice aux bonnes relations entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, en tout cas. Et puis, il y a une persistance des préjugés. C'est vrai que beaucoup d'enfants admettent que les garçons sont plus forts que les filles naturellement, et donc que les garçons sont dominants naturellement. Et ça pèse dans tous les domaines de la société. Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a le problème des filles sont dévalorisés, mais aussi la question des petits garçons qui ne sont pas sportifs et qui sont, eux, déconsidérés et très vite exclus, ou en tout cas exclus de la bande de garçons parce qu'ils sont trop féminins, par exemple. Et ça, ça fait des dégâts psychologiques.
Bon, alors Claire, tu nous parlais d'une médiatisation des femmes sportives quasiment inexistante. Ici, les amis, vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore fouiller dans les archives de l'INA. Je vous ai donc déniché une petite archive de l'ORTF de 1955 dans les actualités françaises à l'occasion de la première diffusion télé d'un match de foot féminin aux Pays-Bas.
Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs, la prudence, qui est mère de la sûreté, doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses car elles paraissent très timorées. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ces ballerines du football le classique entrechat. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ?
Ouais. Bon alors, cette petite rengaine bien lourdingue et misogyne datait même de bien avant 55. Claire nous le rappelait tout à l'heure, le foot a même été interdit aux femmes en France en 1941, car jugé trop dangereux et surtout susceptible de favoriser l'émancipation. Ce n'est qu'en 70 que le football féminin est reconnu par la Fédération française. Mais le sexisme à ce sujet persiste longtemps. Il faudra attendre 1980 pour un premier coup de gueule à la télé, celui de la chroniqueuse de Stade 2, Christine Paris, seule face à 6 hommes en plateau, dont notre Thierry Roland national.
Délibérément, Christine Paris, avec vous, nous restons sous le signe du charme et de vos footballeuses françaises qui ont rencontré les Norvégiennes.
Oui, qui ont été battues 3-0.
Oui, mais elles sont belles.
Oui, elles sont belles. Et puis,
si elles sont belles.
Je peux remonter ce soir. Je voudrais arrêter cette misogynie parce que c'est complètement ridicule. On veut faire de la femme sportive un sexe symbole. On veut des Catherine Deneuve, des Baudérec et des Ursula Andress sur tous les terrains du monde. Complètement ridicule.
Alors, je crois que vous en avez.
Non, mais alors pourquoi ne pas laisser jouer?
Mais vous nous confondez.
Mais non, mais pourquoi? Mais non, parce que les footballeuses en ont beaucoup après les journalistes.
Je crois que nous, quand même.
Et finalement, elles sont terrorisées. Elles ne veulent plus voir de journalistes. Elles sont complètement terrorisées. D'ailleurs, vous allez le voir.
Ça sent les journalistes. Il ne faut pas aller dans les vestiaires.
Non.
Voulons bien voir les footballeuses.
Mais plus de sexe symbole dans le sport, pitié.
Oh non, plus de sexe symbole. Allez-y, mesdemoiselles. Nous vous retrouverons bientôt.
Ouais, 1980. Bon, alors je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, mais c'est vieux, ça a changé depuis.
Bah oui, c'est vieux, ça a changé depuis.
Ouais, c'est dur quand même.
Je vais de nouveau me faire l'avocat du diable. Écoutez ça, c'était dans le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football en 2019.
Avec des gestes si délicats,
Au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle.
Mais quoi ?
Donc là, le mec, Michel Izard, pour ne pas le citer, il te sort une bonne vieille allusion sexuelle sur des images de la main d'une footballeuse qui place un ballon sur le point de pénalty. Et puis ensuite, il poursuit son commentaire sur des gros plans de jambes ralentis avec un champ lexical bien connoté.
Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Comparer le jeu de jambes des footballeuses à des aiguilles avec tricoter, fallait quand même oser. Alors oui, si le ton a pu évoluer dans les commentaires sportifs depuis les années 50, moyenâgeuses, cet exemple de 2019 montre bien qu'il y a encore du boulot pour que les sportifs soient comme les hommes, considérés sur le seul critère de leur performance sportive. Peut-être que laisser plus de place aux journalistes sportifs pourrait être un levier. Je vous propose de voir ça tout de suite avec Mélanie, qui évolue un peu encore dans ce beau milieu qui sent bon la testostérone.
Qu'est-ce que j'ai revendiqué ces derniers mois ? Et surtout, est-ce que je l'ai acquis ? Ce sont les deux questions que je me pose quand vient le 8 mars. Bon, en fait, je me pose tous les mois ces interrogations, mais la date du 8 permet de regarder un an en arrière. C'est quand même pas mal pour faire un bilan désavancé pour les femmes et pour moi-même. Le problème, c'est que ça fait plus de mal que de bien. Je vais laisser mon cas personnel de côté, ça peut se résumer à ça. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je fais ci, je fais ça, ça aussi. Oh, et même ça, qu'est-ce que vous en dites ? Mais c'est super Mélanie, quel profil incroyable de journaliste sportive, on vous tient au courant. Voilà, c'est la fin de mon cas personnel, il n'y a pas de suite à l'histoire. Et comme c'est trop court pour en faire une chronique, eh bien, je vais parler de mes consoeurs. Ou plutôt de mes futurs consoeurs, si un miracle arrive un de ces quatre et que j'arrive à être embauchée quelque part. Le seul souci, c'est que là, ça peut être trop long comme chronique. Juste en prenant le cas des revendications des journalistes sportives. Alors je vais délibérément en mettre certaines de côté et me concentrer sur le commentaire sportif. Un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance.
Commenter le foot masculin par une femme, moi je suis contre. Je suis contre pourquoi ? Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais avoir un timbre de voix ou, je ne sais pas, dans une action de folie, elle ne pourra jamais avoir, elle va monter dans les aigus. Après, je sais qu'on va me traiter de misogyne, de sexiste et tout ça parce que je dis ça.
Vous pensez peut-être que j'ai sorti une vieille archive de l'INA, mais pas du tout. Nous sommes en octobre 2018 et le monsieur qui parle là, c'est le journaliste sportif Denis Balbière. Mais bon, ne tombez pas sur lui pour ça, hein. C'est quelqu'un d'irréprochable dans son boulot.
Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner.
Oui, non, en fait, pas du tout. Mais pourtant, il a des modèles de qualité.
Michel Drucker, pour moi, ça a été exceptionnel. J'étais plutôt radio, et radio, c'était Jacques Vendroux, c'était Thierry Roland.
Bien sûr, le roi Thierry Roland, qui lui, en plus de sa bêtise, a détruit dans son livre tout à fait Thierry, la reine, une vraie cette fois, Marianne Macou, pionnière des années 90, modèle absolu, toujours en 2024. Alors aujourd'hui, on va plus s'amuser à écrire, pour reprendre les termes de son livre, qu'il sort des catastrophes de la bouche des femmes dans le football. Par contre, remettre en doute leurs paroles, ben c'est le constat qu'on peut faire sur cette dernière année, comme ici, avec un autre des modèles de Denis Balbière, Michel Drucker.
Vous avez vraiment souffert avec les copains des sports, les mecs des sports ?
Non.
Non, mais ils ont vraiment, vraiment des attitudes inconvenantes, vraiment.
Et apparemment, remettre en cause le témoignage des 18 femmes journalistes de sport issues du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope », ça pose de problème à personne. Sur le plateau, personne ne lui dit rien. Même chose dans la séquence avec Balbière, d'ailleurs, hein, les journalistes à côté préfèrent rigoler. Alors je me pose aussi cette question. Combien de temps on va se laisser faire ? Parce que c'est bien de critiquer sur les réseaux sociaux après coup. Mais qui, un jour, va avoir le courage de dire en direct sur un plateau « Vous ne pouvez pas dire ça ». Qu'est-ce que ces deux exemples renvoient comme image sur les femmes dans le sport ? Déjà, on va les laisser en bord-terrain faire leur interview de 13 secondes avec un joueur en sueur. Hein, mais pour être dans la cabine des commentateurs, ça, c'est pas possible. Et puis, ça renvoie aussi, quelque part, l'idée qu'embaucher une femme, eh bien, c'est s'exposer à des problèmes en interne. Parce qu'entre couilles, eh bien, on ne pourra plus rien dire, pour reprendre l'expression. Mais revenons aux commentaires sportifs. Déjà, c'est quoi ? Un commentaire, c'est décrire, analyser un match et transmettre des émotions. Alors, je pose cette question. En quoi une femme n'est pas capable de le faire ? On peut aussi la poser différemment. Pourquoi une femme serait en capacité de commenter du foot féminin, mais pas du foot masculin ? Tu sais commenter des actions de jeu, tu sais prendre les infos d'avant-match, tu sais débriefer une prestation, ou alors tu ne le sais pas. Mais pourtant, les rares femmes aux commentaires de foot, eh bien elles sont cantonnées aux matchs de leur genre. Alors oui, quelques-unes sortent du lot. La chaîne allemande ZDF, je ne suis pas sûre qu'on le dise comme ça en allemand, mais bon, vous avez compris, eh bien elle a laissé la dernière finale de la Ligue des Champions à une journaliste, Claudia Newman. Alors les réactions sur les réseaux sociaux ont été catastrophiques. Il y a bien sûr les commentaires habituels, cuisine, pas compétente. Puis à ça, on a rajouté des commentaires sur son physique, sur son âge et à quel point, évidemment, c'est atroce une femme qui commente. Il va donc falloir un peu de courage aux rédactions sportives françaises. Un peu de courage pour ouvrir les portes aux femmes. Un peu de courage pour les mettre en tant que journaliste principale sur un match. Un peu de courage pour supporter les critiques sur les réseaux sociaux. Il va falloir beaucoup de courage aux femmes journalistes de sport. Beaucoup de courage pour prendre la place qu'elles méritent dans les rédactions. Beaucoup de courage pour se sentir légitime à commenter malgré l'absence de modèles. Et enfin, beaucoup de courage pour supporter les déferlantes sur les réseaux. Nous, les femmes dans le sport, on pensait naïvement que le documentaire de Marie Portolano allait faire bouger les lignes. Il n'aurait été finalement que le tout début d'un combat loin d'être gagné. Son premier livre sort dans 5 jours et s'appelle « La femme du plateau ». Ou comment, sous couvert de laisser leur chance aux femmes, on les enferme dans une place unique, celle de la femme parfaite, quasi muette, la potiche du plateau. Moi, je pensais que ça allait être plus facile à la radio. Mais aujourd'hui, seuls 9% de femmes parlent de sport sur mon média favori. Ce qui me fait tenir, c'est qu'on peut difficilement faire pire. Donc gardons espoir que d'ici un an, on ne soit plus assise en tribune ou sur le banc des remplaçants, mais bien titulaire indiscutable.
Eh bien, merci Mélanie. Sache en tout cas que tu reviens quand tu veux dans Gaulle Volant comme titulaire indiscutable de notre équipe. Alors je reviens vers toi Claire au téléphone. Tu nous dressais tout à l'heure un constat clair sur la persistance d'inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport. Auto-dévalorisation des femmes, survalorisation des hommes, persistance des préjugés. Mais une fois qu'on l'a posé ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle égalité en sport on peut vouloir? J'imagine que pour toi, l'éducation physique et sportive en tant que moyen d'émancipation peut être un levier pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, mais pas seulement d'ailleurs.
Bien sûr, je pense que un des leviers principaux, c'est l'éducation. L'éducation à l'école et l'éducation en dehors de l'école. À ce propos, je voudrais citer, il y a un petit film qui est sorti que vous pourrez trouver sur YouTube qui s'appelle « La conquête de l'espace ». C'est un petit documentaire à partir d'une idée d'une ancienne footballeuse qui montre bien que quand on élève les filles comme les garçons, c'est-à-dire que quand on leur donne des pouvoirs moteurs, quand on leur donne la possibilité de développer toutes leurs compétences physiques, motrices, stratégiques, tactiques, eh bien, elles peuvent être largement aussi sportives que les garçons. Et donc, l'éducation est déterminante. Et par exemple, quand on fait lancer un garçon et une fille de la mauvaise main,
et les deux vont être mauvais.
Aussi peu, ils lancent pas loin l'un et l'autre. Et quand on commence à faire lancer un garçon et une fille de la bonne main, les garçons lancent beaucoup plus loin parce qu'ils ont lancé des cailloux à la plage, ils ont beaucoup joué à lancer des choses avec leur papa, avec leur frère, et leur soeur. Les petites filles, elles, très souvent, elles n'ont un ballon. Ça arrive que les petites filles aient leur premier ballon à l'école en classe de CP. Donc l'éducation dans les familles au départ, puis ensuite à l'école, est vraiment déterminante. Et je pense qu'on peut vraiment lutter contre les stéréotypes en y faisant attention. Par exemple, il faut que les enseignants ou les éducateurs et éducatrices fassent très attention à la façon dont ils font les groupes, dont ils font les équipes. Surtout ne pas laisser les élèves ou les enfants faire les équipes eux-mêmes ou elles-mêmes, parce que c'est toujours très humiliant pour celui qui est tiré, celui ou celle qui est tiré en dernier. Donc je pense vraiment que l'éducation physique peut lutter contre ça en proposant les mêmes activités déjà, les mêmes sports. Il faut bien avoir conscience que, par exemple, s'il n'y avait pas l'école, les petites filles ne feraient quasiment jamais de sport collectif.
Et les garçons ne feraient jamais de danse.
Et inversement, par exemple, les garçons ne feraient jamais de danse. Et donc l'école, ne serait-ce que de ce point de vue-là, elle est émancipatrice. Et également, le fait que la mixité soit dans les classes, à l'école, il y a de la mixité obligatoire. Alors, il faut travailler pour que ce soit une vraie mixité, parce que si on n'y fait pas attention, on a très très vite les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Mais si on réussit à faire cette mixité vraiment, à faire que les garçons et les filles jouent ensemble, on fait évoluer très très rapidement les représentations sur les uns et les autres. Et notamment, on peut faire comprendre aux enfants que s'il y a des différences aussi grandes entre les garçons et les filles, c'est plus une question d'éducation, une question d'expérience, qu'une question de sexe. Ouais. C'est pas parce qu'on est garçon ou fille, c'est parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences que on n'est pas aussi compétent. Et il faut aussi apprendre aux petits garçons à jouer avec une fille plus sportive qu'eux et accepter de perdre contre une fille. Enfin, il y a toutes ces petites choses qui ont l'air minuscules et qui, accumulées les unes aux autres, font que la vie des garçons sur les filles peut évoluer et inversement.
Bon, alors je me tourne vers vous, les amis. Vous qui êtes, je le rappelle à nos auditrices, instit ou prof, vous êtes déjà posé cette question dans vos pratiques professionnelles ?
Ah bah oui, moi tout le temps. Je me pose tout le temps la question. Alors moi, je suis prof au collège et dans ma classe en anglais, on travaille en îlot bonifié. Donc ça veut dire que les élèves sont quatre par table. Et depuis que je fonctionne comme ça, je les force toujours à faire des groupes mixtes parce que sinon, j'ai trois tables de garçons, trois tables de filles.
Et vous, les instits ?
Bah ouais, un petit peu comme toi, Charlotte. On va dire la pratique générale, effectivement. En fait, ça me semble naturel qu'il faut les pousser à se mélanger, quoi. Parce qu'effectivement, sinon, si moi je leur dis, bon, faites des groupes, effectivement, il y aura les garçons et les filles d'un côté. Et puis après, peut-être un peu plus dans le cadre de l'EPS, là, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, il faut aussi pousser à ça parce que. Il faut que les garçons acquièrent aussi la compétence de se confronter à des filles. Les filles doivent prendre la compétence de se confronter aux garçons, de coopérer ensemble, etc. également. Donc, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, de forcer un petit peu, quoi.
En plus, moi, je voudrais attirer l'attention sur les espaces. Et ça a un rapport avec le sport, j'y reviens. Les espaces tels qu'ils sont organisés à l'école, moi je remarque qu'au collège, la cour de récréation, elle est, je pense, à 80% occupée par les garçons, parce que c'est quasiment que des terrains de sport. Et les filles, elles sont pas toujours acceptées pour faire du sport avec les garçons, et du coup, en plus, elles ont pas de place.
Mais justement, à propos des cours de récréation, moi je suis dans une école dont la cour a été refaite il y a 3-4 ans maintenant. Et une cour qui est vendue, elle est vendue comme une cour non genrée, justement. Parce que, si tu parles des espaces, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le terrain de foot, il ne va pas prendre toute la cour de récréation comme c'est habituel normalement. Mais il va prendre une petite partie. Puis il y a plein de coins, plein de lieux, avec plein d'activités différentes à faire. Et on se rend compte que, ça crée quand même beaucoup plus de mixité. Il reste... Cependant, le problème du terrain de foot, si ça ne dépendait que moi, je prendrais la meuleuse et on coupe les buts. Mais ça crée, c'est vraiment, rien qu'en termes, en réfléchissant en termes d'espace, ça ouvre plein de possibilités.
Julien ?
Ouais, c'était les exemples que j'avais un petit peu en tête aussi de forcer tout ça, quoi, qui peut être dans les pratiques. Cette cour de récré, c'est un vrai souci. Ah, donc là, on est sur la fille-garçon, mais comme ce qu'a évoqué Claire aussi, au sein des garçons, pour ceux qui sont pas sportifs ou qui n'ont pas envie de jouer, pour les filles, il y a une autre question aussi d'image qui va être le garçon manqué, tout ça. Donc il y a un vrai problème là-dessus qui n'est pas évident, je trouve, des fois à gérer avec les collègues aussi. Sous prétexte, la récréation, c'est un temps libre, et laissons les faire comme elles veulent, laissons les libres. Mais non, en fait, quoi, on a un rôle éducatif là-dedans, mais qui n'est pas évident. Moi, je me suis retrouvé confronté à des levées de boucliers parce que j'avais proposé de faire des temps de non-mixité dans la cour pour le foot, pour que du coup, avec un argument de les filles, elles auront leur espace où elles vont travailler pour ensuite pouvoir retrouver aussi le terrain. Et ça a été compliqué. En fait, peut-être pas d'accord, mais au moins, on discute de tout ça, quoi. Et juste, dernier petit truc sur notre place aussi, en sport, moi je sais que j'ai profité souvent de proposer des sports que les enfants connaissent pas, genre Ultimate, foot gaélique, et du coup en fait ils ont pas de modèle sur lesquels s'appuyer, et ça permet un petit peu d'avoir un peu le champ libre. Alors sur les représentations de victoire ou de défaite, là on sent qu'il y a un truc prégnant de l'imagerie populaire, mais voilà, ça amène aussi des nouveaux comportements. Et puis ce qu'elle disait là, tout le monde est nul à lancer de la main gauche, mais tout le monde est nul à lancer un frisbee, et du coup ça crée quelque chose d'assez chouette, je trouve.
Ouais, tout à fait.
Bah merci à vous. J'aurais bien aimé avoir l'avis du sportif bigorexique de Jérôme à ce sujet. Mais il a, je vous le rappelle, déclaré forfait parce qu'il découvre le principe de la charge mentale ménagère et qu'il doit être à 7 heures en train de changer une couche. Mais il nous a malgré tout fait l'honneur de nous enregistrer son hors-jeu.
Hors-jeu, le but est refusé.
Comment il peut siffler hors-jeu ?
Alors aujourd'hui, petit pas de côté, une nouvelle fois, un petit pas chassé pour parler du tennis féminin. Bon alors moi, comme chaque année, j'ai beaucoup regardé Roland-Garros. J'ai même pu cette année bénéficier avec mon employeur d'un congé biberon Roland-Garros, qui m'a permis de bien suivre le tournoi. J'étais beaucoup donc devant France Télévisions, voire j'étais vraiment trop devant France Télévisions, mais je n'avais pas Amazon Prime, qui diffusait chaque soir un match en night session, moyennant un abonnement évidemment. Et bien sûr, Amazon, en lien avec les organisateurs du tournoi, récupérait le soir un match présenté comme une tête d'affiche. Alors, sur 10 têtes d'affiche, combien étaient des matchs de tennis féminin ? Un seul, celui entre Sloane Stephens et Aryna Sabalenka, le dimanche 4 juin, pour le 8e de finale du tournoi féminin. Parmi les personnalités à regretter cela, notamment Jessica Pegula, numéro 2 mondial. Par contre, sur le plateau de France Télévisions, Patrick Mouratoglou, entraîneur notamment du Danois Holger Rune et consultant pour France Télévisions, trouvait ça parfaitement normal. Alors, son argument principal est qu'il n'y a pas vraiment de stars, selon lui, dans le tennis féminin actuellement. Alors, pour lui donc, on devient une star et après, on nous expose en prime time. Et c'est pas le fait d'être exposé qui nous fait devenir une star. Donc pour lui, Iga Swiatek, Coco Gauff, Ons Jabeur ou Caroline Garcia ne sont pas des stars. Alors, est-ce qu'il croit ce qu'il dit ou il veut juste préserver le statut de dernière superstar du tennis de Serena Williams, joueuse qu'il a longtemps entraînée? Au moment où il déclare ça sur le plateau, Marie Pierce, consultante aussi pour France Télévisions, partage son point de vue. Après, en tant qu'ancienne championne, notamment lauréate de Roland-Garros 2000, elle défend peut-être le tennis féminin de sa génération. Seule Justine Hénin essaye alors de contester la théorie foireuse de Mouratoglou. À la tête de Roland-Garros, on trouve Amélie Mauresmo, elle aussi ancienne championne. Et c'est elle qui se retrouve devant les médias à défendre la programmation. Pareil, Mauresmo défend peut-être son époque de pratique du tennis comme étant la meilleure. Il y a peu de temps, elle avait déclaré au journal L'Équipe qu'elle avait connu l'âge d'or du tennis féminin, car il y avait plein de grandes championnes à ce moment-là capables de gagner le tournoi. Cette année, Swiatek était présentée comme la grande favorite du tournoi. Et elle a gagné. Mais on a l'impression que chez les hommes, quand le résultat est prévisible, c'est le signe qu'il y a des superstars. Et chez les femmes, c'est que le niveau n'est pas assez élevé. En tout cas, moi, j'ai largement préféré cette année le tournoi féminin grâce à la sympathie de Ons Jabeur, à l'attitude conquérante d'Adad Maya, au niveau de jeu impressionnant de la gagnante Iga Swiatek, aux conférences de presse et aux revers de Coco Gauff, au parpin envoyé par Sabalenka, à la résistance de la finaliste Mouchova. Et désormais, je préfère ne plus écouter l'avis de Patrick Mouratoglou sur le tennis féminin.
La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois ? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement, tu trouves ça normal, toi ?
Une femme en short, si je trouve ça normal ?
Ouais, une joueuse de tennis professionnelle.
Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, hein, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts.
Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle ? Enfin...
Vous préférez la jupette, vous, c'est ça ?
Oui, je préfère la jupette.
Finalement, reprends une petite suce, s'il te plaît. Pour ça, pas que j'hésite à boire, vendredi, moi.
Alors c'est pas Patrick Mouratoglou qu'on vient d'entendre, même si ça aurait pu, mais le grand et regretté Bakri dans Un air de famille. Merci Jérôme pour ce hors-jeu qui finalement rentre bien dans le thème, qui est pas tellement hors-jeu, et pour nous avoir partagé ton plaisir de regarder du tennis féminin. Parce que vous allez le voir
et
dans un instant...
pour les jupettes.
Oui. Parce que vous allez le voir dans un instant, regarder du sport pratiqué par des femmes, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde.
Goal volant, l'émission de sport et société. En balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
Avant de poursuivre, une nouvelle pause musicale avec Comme Jeannie Longo de Philippe Catherine. Mais juste avant, je ne résiste pas à vous proposer une nouvelle archive télévisuelle. C'était sur le plateau de l'émission À chacun son tour en 1987 avec un échange sur le cyclisme féminin entre les coureuses cyclistes Jeannie Longo et Marc Madio.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football...
C'est charmant.
Non, mais c'est vrai. je le reconnais. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis.
Tiens, mais pourquoi
voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à des hommes.
Vous êtes vraiment contre le cyclisme féminin. Vous êtes contre les courses.
Je suis contre le cyclisme féminin. Pour moi, je veux vous dire, voir Ulrike Meyfarth faire du saut en hauteur, voir Evelyne Ashford faire du 100 mètres, c'est très joli. C'est très joli à voir. C'est un très beau sport. C'est un très... Non, laisse-moi terminer. C'est extrêmement beau à voir. Le sport doit avoir un côté esthétique. C'est
écoutez,
tout. C'est mon opinion personnelle. Ah non, je n'engage écoutez, que moi. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout.
Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme.
Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous, vous êtes moche, je suis désolé.
Oh non, 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 vous allez un peu loin, les gens.
Je crois que.
Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures un peu plus jolies.
Je pense que l'heure de bien encore du monde.
Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot. Comme Jeannie Longo, qui n'étonne que les sots, qui aime bien le vélo. Sots comme Jeannie Longo. Si tu peines, je t'aime quand même sans ton maillot. Même si tu peines, je t'aime quand même sans ton maillot.
C'était Philippe Catherine avec Comme Jeannie Longo. Vous êtes toujours à l'écoute de Gaulle Volant, le podcast Sport et Société, et nous sommes toujours en compagnie de Claire Pontet, qui, je le rappelle, est responsable de l'éducation physique et sportive à l'école primaire, au SNEP FSU, le syndicat national de l'éducation physique, et au centre PS et Société. Claire, avant la pause, tu nous parlais d'un sexisme persistant dans le sport. En début d'année, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a rendu son rapport sur l'état des lieux du sexisme en France, et il met en évidence un fait dont on ne doutait pas, à savoir que le sexisme s'ancre, voire progresse. Violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus graves, et à des taux toujours plus alarmants. Les réflexes masculinistes et les comportements machistes sont en progression constante, et en particulier chez les hommes de 25 à 34 ans, et il y a une forte régression dans les représentations du rôle des femmes. Tous ces constats sont désormais qualifiés de gravissimes dans ce rapport. Alors pour toi, Claire, que serait une approche féministe du sport ?
Une approche féministe du sport, c'est une approche qui, comme on dit dans les milieux féministes, où on va mettre des lunettes de genre. C'est-à-dire qu'on va essayer de changer de regard pour voir comment les pratiques sportives sont impactées par le fait que les hommes aient une position dominante dans la société et comment se reproduit ça et comment éviter ça. Et pour avoir des pratiques plus inclusives, plus émancipatrices pour les hommes et pour les femmes. Moi, je suis persuadée que les hommes aussi ont gagné à l'égalité. Et par exemple, moi, je suis une grande militante des pratiques mixtes avec des règles qui ne seraient pas basées sur la différence des sexes, parce que le sport, dans le sport tel qu'on le connaît à la télévision, il est de base séparés, garçon d'un côté, homme d'un côté, femme de l'autre. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas des pratiques mixtes qui seraient basées, par exemple, sur la taille, le vécu, par exemple, faire des équipes avec des sportifs et des sportives, et puis des équipes avec des moins sportifs et des moins sportives. Mais la mixité, en mixité. On fait bien des catégories de poids en judo, en lutte, on pourrait très bien faire des catégories de taille en volleyball. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de pratiques à inventer pour qu'on sorte de cette différenciation entre hommes et femmes et de cette séparation systématique. On peut aussi faire des épreuves où garçons et filles vont courir ensemble. Par exemple, à l'école, c'est flagrant. On a des garçons et des filles qui, en CM2, vont courir le cross en étant mélangés garçons-filles, et puis arrivés en sixième, tout d'un coup, ils sont séparés. Mais pourquoi ils n'ont pas en 2 mois, 3 mois, les différences sont pas devenues énormes? Pourquoi est-ce qu'on n'invente pas des classements, des barèmes identiques, et puis on fait éventuellement des podiums différents? Parce que si c'est une question de remettre des médailles, c'est pas un problème, on peut en remettre plus qu'on en remet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est presque inconcevable de mettre les garçons et filles ensemble. Parce qu'on a cette idée que les garçons seront toujours plus forts que les filles. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des filles qui sont plus performantes que des garçons et des garçons moins performants. Donc, on doit pouvoir concevoir les choses un peu différemment. De la même manière, on dit souvent que les filles n'aiment pas la compétition. Mais les filles, elles n'aiment surtout pas perdre. Enfin, je sais pas, personne n'aime jouer un jeu et savoir d'avance qu'il va perdre ou qu'elle va perdre. Donc je pense qu'il faut inventer aussi des formes de rencontres plus festives, où on va faire des tournois où personne n'est éliminé, où le sport doit pouvoir se réinventer. On n'invente pas un sport féministe, on invente une façon de concevoir le sport qui permettrait de mieux faire pratiquer ensemble les garçons et les filles, ou les hommes et les femmes, parce que c'est pas seulement pour les enfants, ça. Je pense que on peut inventer des pratiques, général, y compris pour les adultes, pour avoir des pratiques plus à la fois compétitives et récréatives. On n'est pas obligé de tout caler sur le sport de haut niveau qui vit à ses propres codes, ses propres normes.
Alors justement, Mathieu, je me permets, du coup, sur la question comment faire mieux pratiquer ensemble les garçons et les filles dans les pratiques sportives. Il y a un événement dont Julien a un petit peu parlé tout à l'heure, un événement très important qui se rapproche à grands pas, qui va avoir lieu en France, dont vous avez sûrement entendu parler, met en avant une réponse, une réponse possible, on va dire, à cette question. Ce sont bien entendu...
Roland Garros.
Voilà, Roland Garros. Non, bien sûr que non, évidemment que non. Les JO de Paris 2024. Et donc, une première historique, attention, une parité parfaite entre les athlètes. 10 500 athlètes. Donc moitié homme, moitié femme, j'ai pas fait le calcul, je suis un peu malade là, mais un peu plus de 5000. Oui, tout à fait. Une parité qui avait presque été atteinte au dernier JO à Tokyo. On était à 48% d'athlètes féminines. Et on est très loin du chiffre dont tu parlais, Julien, tout à l'heure. On était il y a un peu plus de 100 ans.
Ça a progressé.
Donc voilà, un long chemin parcouru, donc, à retrouver sur le site officiel des JO 2024, qui retranscrit le parcours d'un nombre important de femmes athlètes. Je vous encourage à aller voir ça, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Un long chemin, donc, mais là où certains y voient une ligne d'arrivée, d'autres y voient surtout une première étape. Ouais. Parce que derrière parité, on sent bien qu'on veut quand même nous faire entendre le mot égalité. Ouais, sauf que parité, est-ce que ça veut vraiment dire égalité?
Ça se saurait.
Ça se saurait, ouais. Car ce que beaucoup de sportifs recherchent, c'est avant tout de la reconnaissance et de la considération. Par exemple, Sarah Danint, qui était médaillée de bronze à Athènes en 2004, donne un exemple qui illustre bien le fossé entre les hommes et les femmes. Donc elle dit, c'est déjà arrivé qu'un homme soit nommé entraîneur national d'une équipe de France féminine et qu'il soit complètement dégoûté parce qu'il avait postulé pour entraîner les équipes masculines. Ou encore Sarah Ouramoun, qui est une pionnière de la boxe en France et qui s'est battue tout au long de sa carrière pour l'égalité, justement. Elle dit, lors de mon premier combat en 1999, les gens étaient choqués de voir des femmes sur un ring. Ils nous criaient dessus, ils nous insultaient. On ne voulait pas de nous. Donc elle est parfaitement consciente que les problèmes sont loin d'être réglés. Bon, pour autant, elle met un petit peu d'eau dans son vin. Elle voit dans la parité au JO 2024 le symbole du chemin parcouru. Car la parité des sexes en 2024 ne donne aucune garantie aux femmes engagées dans les disciplines menacées de perdre leur statut olympique, comme justement la boxe, encore incertaine au JO de Los Angeles en 2028. Donc Sarah Ouramoun répète, on est en danger. Aujourd'hui, on est olympique, on a cette visibilité et cette protection que nous apportent les Jeux. Si demain, on nous enlève ce statut, je pense que ce sera très compliqué pour tous ceux qui font de la boxe et encore plus pour les femmes. Quand il y a moins de moyens, ce sont elles qui en pâtissent le plus. Alors, mieux faire pratiquer ensemble les garçons et les filles, ça ne peut pas être simplement dire « Regardez, on a autant d'athlètes hommes et femmes ». Non, car on sait bien qu'un côté sera bien plus médiatisé que l'autre. Mais les choses avancent et apparaissent même un petit peu au JO. On a par exemple des épreuves mixtes, qui sont organisées. À Tokyo, lors des dernières Olympiades, les judokas et judokas français avaient même remporté la médaille d'or en équipe. Il y a des relais mixtes en natation, en athlétisme. On retrouve des doubles femmes-hommes dans des sports de raquettes, en équitation, en voile. Il y a même au prochain JO là, des hommes qui vont participer cette année avec des femmes aux épreuves de natation synchronisée. Bon, cependant, ces épreuves sont pour l'instant bien sûr marginales et concernent uniquement les sports d'équipe. Qui plus est, même si les équipes sont vendues comme mixtes, les hommes y sont souvent surreprésentés. La parité, y est en réalité assez rare. Alors, il y a un sport, hein, j'ai trouvé un sport quand même où la parité est obligatoire. Ça s'appelle le korfball. Le korfball, hein, c'est un sport qui est né en 1902 aux Pays-Bas. Et c'est un sorte de mélange entre du basket, du handball, de l'ultimate, justement. On en a parlé dans un goal volant. Et là, pour le coup, l'équipe, elle est obligatoirement composée de 4 hommes et de 4 femmes. Et malheureusement.
Faire avec vos élèves.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais il faudrait trouver les règles. Hein, parce que
traduite du néerlandais.
Même si ça a été un sport qui a été, vous savez, au JO, parfois, on a des sports qui sont en représentation et ça a été représenté, mais c'était en 1928, je crois. Enfin, ça date, quoi.
Oh, dans les archives de l'INA, je vais retrouver ça.
Ah, peut-être. Malheureusement, ce sport, tout comme l'ultimate, hein, n'est toujours pas présent au JO. Alors, comment aller plus loin ? Claire, tu nous as fourni des pistes tout à l'heure en évoquant le fait d'organiser des tournois où les participantes et participants ne sont pas choisis en fonction de leur genre, mais plutôt de leur taille, de leur poids, de certaines qualités. De récompenser pas seulement la performance, mais pourquoi pas la stratégie, la tactique, l'esprit d'équipe, le fair play. Bon, y a tout à inventer, à proposer. Et je pense, hein, c'est mon avis, les JO ont ce rôle là également, à travers l'héritage qu'ils peuvent laisser, de mettre en avant les pratiques nouvelles, originales et prometteuses. La difficulté, quand on veut faire évoluer les questions autour du genre dans un milieu qui s'est défini depuis ses origines autour de critères très genrés, justement, bah c'est de pouvoir remettre en question les fondements même de ce milieu. Encore plus lorsqu'il est très médiatisé et dans lequel les intérêts financiers sont importants. Donc la question vers laquelle il faudrait peut-être aller, ça serait comment dégenrer le sport. Une question qui, au-delà des inégalités femmes-hommes, fait aussi écho à l'inclusion des personnes issues des communautés LGBTQIA+, des personnes en transition. Et d'ailleurs, Claire, est-ce que justement le milieu du sport commence à s'emparer de ces problèmes ?
C'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Et donc, je dirais qu'on est plutôt en réflexion. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut accompagner les jeunes qui se posent ces questions de transition. Et en EPS, eh bien évidemment, comme la question du corps est première, on est aux premières loges en tant qu'enseignant et dans les clubs sportifs. Je pense que ça peut, par exemple, quand on lit le rapport de SOS Homophobie, on voit bien que le milieu du sport, et notamment la question des vestiaires, est un vrai problème pour les jeunes qui se définissent gays ou lesbiens et ou lesbiennes. Et évidemment, la question du transgenre va bien encore un petit peu plus percuter ça. Mais c'est un terrain sur lequel tout le monde est en train d'apprendre, en fait. Et même le sport de haut niveau n'est pas du tout... Personne n'est d'accord sur la façon dont on va traiter les transitions, parce que avec toujours ce problème de... Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui va spolier toutes les médailles des vraies femmes, enfin, bah, tu vois, c'est un sujet... qui est en discussion, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils soient en discussion, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai entendu des gens très célèbres me dire « Oh non, non, mais il n'y a pas de problème d'homophobie dans le sport, parce qu'il n'y a pas de gays dans le sport. Le sport, c'est viril, donc il n'y a pas d'homosexuel dans le sport, par exemple. »
Tu penses ?
C'est évidemment une aberration, mais les choses évoluent. Mais on ne peut pas dire qu'elles évoluent très vite dans le monde du sport, qui est quand même un monde encore assez macho quand même.
Ouais, et tu ne crois pas si bien dire, Claire. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à réécouter ou écouter notre épisode de Goal Volant sur le foot et ses travers, dans lequel on abordait pas mal ces questions-là, et notamment toi, Mélanie, avec cette culture homophobe et sexiste latente dans le foot. On te réécoute, Mélanie.
Ce que je peux entendre dans les tribunes d'un stade me freine quelquefois à y aller. Je ne veux plus aller voir un match avec Stéphanie Frappard au sifflet parce que je sais que je vais entendre des insultes sexistes. La dernière fois que je l'ai fait, c'était au Roazhon Park, c'était la saison dernière. Et j'ai vu un gamin, je lui donnais 10-12 ans, il la traite de salope et son père est mort de rire. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Je supporte plus entendre des enculés aussi à tort et à travers alors qu'on a expliqué 1000 fois que c'est une insulte homophobe. Donc les personnes qui le hurlent le font en ayant bien conscience de ça et en assumant totalement leur homophobie, ce qui est un délit, rappelons-le. Et puis la LFP va probablement supprimer les maillots arc-en-ciel à cause de 5-6 abrutis qui refusent de comprendre la signification du message. Donc c'est assez désolant pour la lutte contre les discriminations homophobes. Mais on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'apparemment, la LFP est très très en avance par rapport à la FFF. ça donne pas beaucoup d'espoir.
C'est sûr. Bien, on arrive au terme de notre émission, et comme dans tout match intense qui se termine, c'est l'heure de la troisième mi-temps, et c'est Charlotte qui s'y colle aujourd'hui.
Alors moi, je savais pas de quoi parler pour aujourd'hui. J'avais envie de parler de plein de choses. J'avais envie de parler justement des sports d'hommes et des sports de femmes. J'avais envie moi aussi d'aller chercher
des archives
chez Lina. J'avais envie de parler des grandes sportives et j'ai aussi une passion pour les statistiques. Et donc comme je pouvais pas parler de tout ça, j'ai décidé de faire un petit quiz pour qu'on puisse potentiellement en parler un peu ensemble. Donc je propose... qu'on fasse jouer nos trois experts sportifs.
Parce que je crois que t'as les trois moins sportifs de l'équipe de Goal Volant.
Oh, dis donc.
Alors, j'ai préparé des questions débutants, intermédiaires et confirmées. J'ai quatre thèmes. Je vous propose que chacun à votre tour, vous choisissiez un thème et qu'on pose d'abord la question débutant, puis la question intermédiaire, puis la question confirmée, avec un point pour la question débutant, deux points pour la question intermédiaire et trois points pour la question confirmée.
Il n'y a pas les questions enfants.
Bah, en fait, si vous tombez sur le bon thème, ça va être très facile parce qu'il y a des choses qu'on a déjà évoquées.
Ok. Honneur à moi, au plus ancien.
Alors, allez. Alors, les thèmes, c'est sport d'homme, sport de femme. On a aussi un thème petite dinguerie entre amis.
Oh, j'aime bien ça.
Oh. Un petit thème, j'adore les stats. Oh. Et un thème, qui suis-je, trois sportives à deviner.
Eh ben, je vais prendre les petites dingueries entre amis.
Eh ben, très bien, ce sont des extraits audio. Et il faut m'expliquer ce qu'il se passe.
Le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. En tout cas, la tenue de la jeune fille est très intéressante, ses collants sont sympas. Et j'avais fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur, ce qui nous avait valu un petit peu le zapping à l'époque.
Mon Philippe Cordeiro, ah, et voilà. Le fameux Anaconda.
Tu l'attendais, ça.
Ouais.
C'était donc ça, tu voulais que je dise que c'est Philippe Cordeiro
qui commente le patinage artistique aux Jeux de Sochi, figure-toi. Oui.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports.
C'est ce que j'allais dire.
Sans se donner en spectacle.
Incroyable.
Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Ouais. Pierre de Coubertin. Mais je trouve que Julien le fait vachement mieux que l'original.
Ouais.
En fait.
Ouais, ouais. Oh, oui.
Merci, je me suis entraîné en plus.
Je n'engage que moi. Si je n'aime pas le cyclisme féminin, j'ai le droit de ne pas l'aimer. J'ai le droit de ne pas apprécier. On m'a demandé mon avis là-dessus, je l'ai donné. Point final, ça n'engage que moi. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout.
Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme...
Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous, vous êtes moche, je suis désolé.
En même temps, ça fait plaisir de leur entendre.
Notre cher
Madio, donc oui. Avec Jeannie Longo.
Eh bien, tout à fait, ça fait 6 points. Bon, tu as été avantagé sur ce thème, puisque nous avons eu les mêmes idées.
Vous avez du boulot, les gars.
J'aimerais bien celui sur les stats.
Sur les stats, très bien.
Ouais. Ah, il m'a piqué ma blague.
Alors, question débutant. En moyenne, quel pourcentage représente le sport féminin du total des retransmissions sportives à la télé?
C'est à moi de répondre.
Ouais. Ouais, c'est à plus ou moins 5%.
10%.
Non, c'est un peu plus, c'est 20%.
Oh. pour Benjamin, pas pour le sport des femmes.
Hein. Oui. Ensuite, question intermédiaire. En 2022, quel était le pourcentage de femmes licenciées à la FFF, Fédération Française de Football? À 5% de près aussi.
37%.
Eh bien, pas du tout. Oh. C'est en 2022, on compte 164 000 licenciés, soit 9% du total des licences.
Ouais. Merci d'avoir pris ce choix, alors.
Et enfin, en 2022, à 5 près, combien y avait-il de présidentes de fédérations sportives, sachant qu'on compte 120 fédérations sportives?
120 fédérations. Ouais. Oh, si. Allez, à combien près, tu m'as dit ?
À 10 près.
À 10 près. Bah, je vais dire 3.
Eh ben non, c'était 19.
Ah, quand même.
Quand même, on n'est pas si mal.
Non, c'est
elle s'était dure, mais ça. Beaucoup.
Ça fait un point.
Oui, on apprend des choses, même c'est ça qui est bien.
Bah oui, c'était le but.
Oh la vache, ah ouais.
Oh là là, ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, si je peux te conseiller, Julien, le fait le plus important que j'ai à vous raconter est dans le thème qui sont ces sportifs.
Julien. Eh bien, je vais prendre.
Attends, on n'a pas rappelé le score de Binge quand même.
Ah oui.
Un. Combien ?
Un. Et ben du coup, moi je vais prendre météo.
Je sais pas.
Mince. Qu'est-ce
qui c'est parce que je suis une fille, c'est ça ? Tu veux que je te sorte un thème cuisine aussi, tant qu'on y est ?
Allez.
Non mais vas-y, hein. Va pour ton thème préféré.
Donc, il faut que tu me trouves à chaque fois une sportive.
Des noms de sportives ?
Ouais.
Attends. Mais alors, rien à voir avec ça, mais je suis incapable de nommer 3 sportifs.
On va t'aider. Ouais.
Vous allez m'aider.
Oui.
Ouais, ok.
On peut jouer en coopération.
Moi, j'ai qu'un
en fait.
Point, je te rappelle.
Ouais. C'est vrai.
Alors, allez. Question la plus facile. Elle est la gymnaste la plus médaillée de l'histoire, avec 37 médailles dans les événements mondiaux, 30 en championnat du monde et 7 aux Jeux Olympiques, dont un record de 23 titres mondiaux depuis ses débuts chez les seniors en 2012. Elle devient une vedette internationale, notamment après son quadruple titre olympique aux Jeux de Rio en 2016.
Amélie Oudéa Castéra.
Non.
Alors là,
américaine.
Une américaine, oh, ouais.
Même, tu vois, j'essaye de faire une blague avec une actrice américaine. Je suis nulle en nom.
Elle a le même prénom que notre vas-y. Chère Madame Veil.
Simone de Beauvoir. Non, pas du tout.
Simone Biles.
Simone okay. Biles. Ah, ouais, on peut faire des blagues comme ça, quoi.
Ouais, tout à fait.
Combien de médailles tu disais ?
Elle a un total de 37 médailles.
Et on ne connaît pas son nom.
Ensuite, qui est cette championne olympique de snowboard, spécialiste en slalom géant, en slalom parallèle et en border cross, Son palmarès compte aussi 67 victoires et 122 podiums. En Coupe du Monde, elle a remporté 19 globes de cristal, dont 6 récompensant le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Elle est malheureusement décédée en 2009 à l'âge de 31 ans. Et si ça vous intéresse, elle a donné son nom au collège de Saint-Pierre-en-Faucigny et a fréquenté le même lycée que moi.
La Savoyarde qui ressort.
Pardon.
Je dirais...
Demande à ta fille.
Joker.
Vous la connaissez pas ?
Bah non.
Non, mais le snowboard, c'est un sport qui pollue. Hein. À Gol Volant, on n'aime pas les sports qui polluent.
Ouais, mais c'est hyper chouette à regarder. Et c'est Karine Ruby.
Ah, mais oui.
Et j'allais dire Karine quelque chose, je cherchais.
Ouais,
et ben ouais, je la connaissais.
J'ai...
Et ben ouais.
Et voilà. Enfin, ma question préférée. En 1928, après les JO d'Amsterdam, qui détient le record du monde du 800 mètres ?
Bah, celle qui arrivait la première.
Mais pas que des femmes.
Ah.
Alors je vais vous. C'est ça l'anecdote que j'adore le plus. C'est Lina Radke qui a donc obtenu le record du monde du 800 mètres. Et savez-vous ce qui s'est passé après pour le 800 mètres ?
C'était mixte avant et c'est. Non.
Non, il a été interdit aux femmes jusqu'en 1960.
Ah, parce qu'elle avait battu.
Ah non, les hommes. Alors non, c'était pas officiellement, c'était pas pour ça.
Officiellement,
c'était parce que les médecins étaient inquiets, parce que vous comprenez, elles se sont écroulées à l'arrivée. C'était fatigant, c'est trop violent pour les femmes, c'est dangereux pour les femmes. Ça, c'est comme le saut à ski, c'est dangereux pour les femmes.
Comme le foot, tout ça.
Voilà. Okay. Donc voilà.
Eh ben, je partage mes points avec mes coéquipiers.
Oui, c'était plus un prétexte pour pouvoir vous raconter des petites anecdotes.
Bien sûr, mais je constaterai que tu m'as envoyé directement dans la gueule du loup. Mais prends cette catégorie, elle est vraiment super bien.
Bah alors, je pensais vraiment pas qu'elle était si dure, parce que pour moi, Simone Biles, elle était quand même très connue, et Karine Ruby, peut-être parce que j'habite dans la vallée, j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Ouais.
Eh ben, merci à toi, Charlotte.
Mais de rien, c'est un plaisir.
Ainsi s'achève ce nouveau match de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement Gaulle-Volant. Merci à vous, chères chroniqueuses et chroniqueurs, et merci à toi, Claire, pour ton éclairage sur cette vaste problématique et les pistes que tu nous as proposées.
Merci, au revoir.
Et pour celles et ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous conseille le site internet du centre EPS et Société, epssociététoutattaché.fr, ainsi que le bouquin de Béatrice Barbus, ancienne handballeuse et première femme en France à avoir été présidente d'un club pro masculin. Ça s'appelle « Du sexisme dans le sport » et c'est aux éditions Anna Moza.
Est-ce que je peux conseiller un petit truc aussi, moi, qui m'a beaucoup inspirée sur mon thème ? C'est un documentaire qui a été fait par Arte, qui s'appelle « Toute musclée » et qui est disponible gratuitement sur YouTube.
Bah, du coup, moi aussi, je conseille un truc.
Ah bah, allez, soyez fous.
Le podcast « Les couilles sur la table oui. ». Sport et homme, trop bien.
Benjamin, toi, t'as rien à proposer.
Une verveine, parce que je suis fatigué.
Bon, bah merci à tous, salut tout le monde et à très vite.
Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le top man.
Allez, allez, bouge-toi le cul! Allez, va chercher! Grouille-toi!
J'ai...
Ouh!
Oh!
Là!
Mais ne courez pas comme des cons!
Allez, mets un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh, putain! Oh là 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 là!
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.